Salut, c'est Yann pour l'émission Crème de la Crème. On est ensemble sur Canal B pendant une heure pour une discussion avec la musicienne Pénélope Antena. Elle était présente à Rennes pendant le festival Doing It. On va parler beaucoup de jazz avec Pénélope dans quelques minutes. Mais avant ça, vous aurez pu entendre dans Crème de la Crème notre disque d'or de la semaine, celui de Benny, et puis aussi un retour en 2018 grâce à la machine à remonter le son pour la cinquième fois cette semaine. En fin de partie tout à l'heure, ce seront les morceaux de choix proposés par Ronan Chaplin qui a rencontré Cédric, qui nous dira tout le bien qu'il pense des Vivian Girls. Mais on commence directement avec Benny et le titre Nothing Lasts. C'est extrait de l'excellent album One Million Love Songs qui se fait parfois un peu abrasif, un peu shoegaze avec des distorsions sur la guitare et parfois est beaucoup plus doux. On écoute aujourd'hui pour débuter Crème de la Crème, Benny. Bonne émission.
Nothing ever lasts. Loving.
l'instant le producteur américain Adrian Young, extrait d'un album sorti en 2018, puisque c'est l'année qui nous occupe dans Crème de la Crème cette semaine grâce à la machine à remonter le son. L'album c'est Voices of Gemma, qu'il avait produit pour son propre label Linear Labs, et qui donnait un petit peu toute l'étendue de son talent producteur contemporain, mais avec de grandes oreilles tournées vers la musique de Curtis Mayfield, celle des Temptations et puis des Delphonics par exemple. Un grand écart parfois entre le hip-hop et le jazz. Il faut dire qu'il avait travaillé avec l'ex-Wu-Tang Clan Ghostface Killah, Adrian Young. Je vous conseille toute sa discographie, c'est somptueux. Crème de la Crème se poursuit puisque c'est le dernier vendredi du mois avec un chant libre A, numéro 8 du nom. Dans quelques instants, la chanteuse Penelope Antenna avec nous dans Crème de la Crème. S'il vous arrive parfois de tomber sur Canal B le vendredi, dernier vendredi du mois aux alentours de 18h, bien vous le savez, c'est Champ Libre A. Un artiste, une artiste se balade dans les rayonnages de l'étage numéro 2 de la bibliothèque des Champs Libres et nous en ramène quelques documents qui ont un rapport assez serré avec la formation de son goût, de ses goûts. On va aujourd'hui surtout écouter du jazz, parler de musique, parler d'une famille d'artistes sans doute à travers la présence ici aujourd'hui de Penelope Antenna. Bonjour Penelope.
Bonjour.
Donc vous avez entendu abondamment le dernier album, le troisième album, James and June, il y a quelques mois. Il est paru en septembre dernier sur le label Rennais, Parapente d'ailleurs. Ouais. Tu es d'une famille d'artistes en fait, Penelope. Tu as un peu bougé partout dans le monde, mais avec quelques polarités quand même entre les Cévennes, la Belgique, les États-Unis.
Et maintenant la Bretagne.
Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue artiste, toi, Penelope ?
J'en sais rien. Est-ce qu'on sait vraiment ? Est-ce qu'on choisit de devenir artiste ? Je pense pas. Hein. C'est juste qu'on a un besoin d'exprimer ses émotions et ses expériences par l'art, mais c'est tout.
Est-ce que le fait quand même d'avoir une maman chanteuse, un papa producteur, ça favorise un peu quand même plus ?
Ben, on est quatre frères et sœurs et il n'y a que moi qui fais de la musique. Au-delà de ça, même mes frères et sœurs ne sont pas particulièrement... music man, je sais pas comment on dit, intéressé par musicophile.
On peut dire ça comme ça.
Voilà. Et donc non, je pense pas. Ça serait hypocrite de dire que ça m'a pas influencé. On est toujours influencé par ses parents, mais par contre, je pense pas que c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire un métier. D'ailleurs, ils ont toujours été assez. Ils m'ont toujours plus ou moins dit que c'était difficile de gagner sa vie en faisant ça, que c'était pas forcément le choix le plus facile, quoi. Mais quand on a besoin de faire de la musique, on le fait.
On va écouter de la musique, surtout d'autres compositeurs, d'autres compositrices, mais avant quand même qu'on plonge dans cette sélection en quelques documents musicaux, eh bien, on va écouter un titre extrait, justement, de cet album James and June, un titre que tu nous proposes maintenant.
Every story ever told. Toutes les histoires jamais racontées.
Et elles sont toutes contenues dans cette chanson-là ?
Non, la chanson dit que toutes les histoires jamais racontées sont à propos de l'homme que j'aime.
Fall right into your arms. The music I have yet to make is hidden inside. For every night I spend holding your hand feels like a million lives. You are every star above and light and God and love combined. Every story ever told, every lover past and forward is you. Is you. Is you.
you really truly love you, you know?
Un changement un peu stylistique entre les premiers enregistrements de Penelope Antenna, où il y avait quand même plus de lofi peut-être, c'était un peu moins jazz aussi ou pas déjà?
C'était un peu moins jazz, en fait je me suis mise au piano très sérieusement pendant le confinement, et plus qu'au piano, à l'harmonie. J'ai toujours grandi avec le jazz mais sans jamais vraiment pleinement le comprendre. Et je me suis mis à fond dans l'apprentissage de l'harmonie jazz. Et ça a forcément provoqué de l'inspiration qui doit découler des chansons qui sont donc plus produites et aussi plus écrites, structurées comme des chansons moins expérimentales.
Quand on a une maman chanteuse de jazz, est-ce que c'est difficile de voler de ses propres ailes, de se dire « je ne vais pas forcément lui demander de me donner des leçons de chant, je vais aller de mon côté ». C'est comme ça que ça s'est passé en tout cas?
Oh oui, oui. Bon, en fait, le truc, c'est comme dire « Est-ce que tes parents t'ont donné des leçons de français ?» Non, je les ai entendus parler français, j'ai appris le français très naturellement, et je pense que c'est pareil pour le chant. Elle n'a jamais eu besoin de m'apprendre à chanter, c'était tout autour de moi, tout le temps, quoi.
Il y a eu cette maison dans les Cévennes qui existe encore, parce que
bien
tu
sûr.
Y as passé du temps encore.
C'est mon frère qui y vit maintenant. Ouais.
Et cette maison est devenue un studio.
Attenant à la maison, il y a un studio d'enregistrement qui est son propre lieu, qui s'appelle le Cédar Studio, et dans lequel je suis partie me réfugier après avoir vécu de longues années en Belgique où je suis née. Je suis allée me réfugier dans cette maison dans le sud de la France, perdue dans les bois, avec ce studio d'enregistrement qui appartient à mes parents. Et j'y ai enregistré mon premier album qui s'appelle Antelope. Et il existe toujours, j'y vais plus, j'ai créé mon propre studio maintenant en Bretagne.
Mais ce studio dans les Cévennes, il existe depuis longtemps?
Je pense que j'avais 10 ou 11 ans quand il a été construit. Donc oui, je ne dirais pas exactement combien d'années.
On peut imaginer une enfant comme ça qui court un petit peu de la maison au studio et puis qui émerveillé regarde et écoute tout ce qui s'y passe.
Exactement, d'ailleurs mon père est... Donc ma maman fait de la musique, mais mon père est producteur et il recevait énormément de groupes et d'artistes qui venaient enregistrer leur album chez nous. Donc ça a toujours été la maison de la musique, quoi, c'est clair.
Et dans cette maison de la musique, bien oui, on n'a pas attendu la création de ce studio, j'imagine, pour que la famille soit éprise de musique, en joue aussi. Et ça va nous amener à une première sélection musicale que tu as apportée ici et trouvée donc à la bibliothèque des Champs Libres. Ce musicien, c'est le trompettiste peut-être... le plus important de l'histoire du jazz, le deuxième après Louis Armstrong peut-être alors?
Oui. C'est Miles Davis, bien sûr. Mon grand-père jouait avec lui quand il venait jouer à Bruxelles, c'était son claviériste. C'est un artiste avec lequel j'ai toujours grandi, il a toujours... il est toujours... sa musique est toujours passée dans ma maison, pas lui. je pense qu'il est mort avant que je sois née, non? Mais en tout cas, ouais, c'est un artiste très important dans ma vie, quoi. Dans mes souvenirs d'enfant.
Et quelques souvenirs précis d'écoute de la musique de Miles Davis?
Bon, je dirais que j'apprécie sa musique jusqu'au moment où il a pris trop d'héroïne, quoi. Beaches Brew, le jazz fusion, fin des années 70, là, il m'a perdu un peu. Mais, donc j'ai des souvenirs de lui, bah, plus comme la chanson qu'on va écouter dans les années 50, c'est toute sa période du bebop, quoi. Je crois qu'on a choisi Lady Bird. Donc c'est Mingus qui est à la basse et Art Blakey qui est à la batterie. C'est des musiciens incroyables, quoi. C'est mes souvenirs de Miles, c'est ça, virtuosité.
Ha ha ha! Extrait seulement, vous retrouverez bien sûr sur la page de Crème de la Crème sur canalb.fr toutes les références pour aller vous-même vous les procurer à la bibliothèque des gens libres, ces enregistrements et ces disques-là qu'on va écouter avec Pénélope Antena, notre invitée aujourd'hui. On a profité de ce passage à Rennes pendant le festival Do In It pour discuter ensemble. Miles Davis, c'est peut-être pas sur les rayonnages, et certainement pas, tu nous le disais tout à l'heure, d'une bibliothèque que tu l'as découvert, hein, c'était à la maison. Je suppose peut-être que quand on est dans une famille comme ça qui a forcément beaucoup de livres, beaucoup de disques, on n'a pas besoin forcément d'aller fureter dans les bibliothèques.
Oui, c'est vrai. Surtout qu'avec mes grands-parents, en plus, on avait vraiment une collection interminable, quoi, infinie, de vinyles, de livres, de bandes dessinées. Je suis belge en plus, donc... plus celle de mes parents qui avaient chacun leur collection, qui sont rencontrés, qui l'ont mis ensemble. Et donc effectivement, on a toujours eu à profusion des CD, des vinyles, des BD et des livres. Et on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, donc on passait beaucoup de temps à explorer tout ça.
C'est ce qui t'a nourri forcément, toute cette proposition artistique, culturelle, musicale. On pourrait voir quand même dans le fait que tu commences à sortir des disques en 2019, le fait que tu as voulu prendre le temps de vraiment aller dans cette direction-là, où il y a eu d'autres vies pour Pénélope Antena avant celle qui est la tienne en ce moment de musicienne complète.
Oui, en fait, à partir de 2019, je me suis mise à produire ma propre musique, mais avant ça, j'ai collaboré avec plusieurs artistes, J.T. Donaldson aux États-Unis, qui est un DJ de house américain, un producteur même de house américain d'ailleurs, et Deheb. DJ aussi Deheb, producteur de hip-hop nantais, lui. Pour
et ancien Rennais, d'ailleurs.
Et ancien Rennais, c'est vrai. Et plein d'autres gens, je pense à Nikitch. J'ai collaboré avec plein d'artistes avec qui je chantais. Et c'est vraiment... quand j'ai rencontré JT, qu'on s'est posé ensemble pour produire un disque, enfin que lui allait produire et sur lequel j'allais chanter, que je l'ai vu faire. En fait, je l'ai vu découper un sample, le mettre dans sa MPC... et taper dessus et commencer à faire un morceau, et j'ai dit il faut que tu m'apprennes, quoi, je veux le faire, quoi. Et donc il a fallu du temps et un peu de courage aussi pour que j'ose le faire toute seule, un cœur brisé aussi, hein, ça aide pour avoir envie de produire et de sortir quelque chose, quoi, d'intime. Je pense qu'il a fallu ça pour que j'ose le faire, quoi, pour que j'ai besoin de le faire.
Est-ce que finalement, tu te dis, j'ai bien fait de faire comme ça, aujourd'hui, avec un peu de recul sur cette évolution-là, entre chanter pour les autres, avec les autres, et puis chanter pour soi et composer pour soi, le passage d'un à l'autre, c'est fait comment ?
Bon, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, hein. Mais je regrette, j'aurais aimé commencer à produire à 19 ans. Non, je regrette d'avoir mis si longtemps à oser le faire, à savoir le faire... Mais bon, je suis aussi effectivement très contente. Là, j'ai fait un morceau avec Nikitch il y a 12 ans, sur lequel je chante. Et c'est la nouvelle chanson de la de la dernière pub d'un rouge à lèvres Lancôme. Donc, je regrette rien de ce que j'ai fait, parce que la musique, c'est toujours un ticket de loto, quoi. Et il faut jamais regretter d'avoir mis ses billes quelque part.
Deux personnes, deux sœurs, dont on ne sait pas si elles regretteront ou pas, puisqu'on ne sait pas ce qui se passera après la fin du film. C'est celle qu'on va entendre maintenant, avec là un goût pour la comédie musicale en général, ou certainement plus celle de Michel Legrand et Jacques Demy en particulier.
Moi, j'ai un goût très prononcé pour la comédie musicale dans son intégralité, ça c'est sûr. J'ai grandi avec Les Demoiselles de Rochefort, et puis après West Side Story, La Mélodie du Bonheur. J'ai un grand amour, une grande passion pour la comédie musicale, c'est clair, que je partage avec ma petite sœur. Et donc, quand on était petite, on chantait Les Demoiselles de Rochefort.
Sans être jumelle, vous la chantiez quand même, cette chanson?
Cette chanson-là, et aussi, on impressionnait toujours tout le monde parce qu'il y a une chanson très rapide dans Les Demoiselles de Rochefort. Et nous, on savait la faire encore plus rapidement.
Toi qui crois me connaître et qui ne connais rien.
Tu veux que je la fasse? Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits? Si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais.
Très très beau, très très beau. Et c'est vrai qu'on repense tout de suite à ces scènes dans la ville de Rochefort et ses couleurs et ces Américains qui arrivent et ces saltimbanques qui vont peut-être emporter avec eux les deux sœurs. On l'espère.
C'est vrai. Et Maxence, qui cherche l'amour. La plus belle chanson d'amour, je pense, que j'ai jamais entendue. Ma préférée, avec Maria, dans West Side Story aussi, qui est magnifique. La chanson de Maxence.
Je l'ai cherchée partout. J'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore. De Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. J'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trotte dans ma tête et danse en rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé.
There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling, a rat-tat-tat of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
Si, c'est sûr, la musique de Michel Legrand et le film de Jacques Demy ont laissé pas mal de paillettes comme ça et de lueurs dans les yeux des spectateurs, des spectatrices. Ceux de Pénélope Anténa, notre invité aujourd'hui aussi, bien sûr. Eh bien, ça a laissé aussi quelques postérités à travers des films comme celui dont on écoutait un extrait de la bande originale à l'instant. Peut-être tout le monde ne l'aura pas reconnu. Dis-nous tout sur ce qui te plaît dans ce film.
C'était un extrait de La La Land, de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Emma Watson. Emma Stone ? Emma Watson, c'est Hermione. Bref, La La Land. Une magnifique comédie musicale contemporaine, jazz, pleine de danse et de tenues colorées. On sent l'inspiration de Damien, on sent son amour pour Jacques Demy et Michel Legrand. Je pense que c'est une déclaration d'amour même aux Demoiselles de Rochefort. Je pense que ça sera intemporel. Hein. Je leur souhaite, j'espère qu'ils finiront par en faire un Broadway musical Mais c'était vraiment un des films qui m'a le plus touché de ces 10 dernières années, c'est clair. Le plaisir de découvrir une nouvelle comédie musicale, quoi. Quel plaisir.
Est-ce que ça, puisque tu nous le disais tout à l'heure et tu le dis encore, ton goût et ton amour pour la comédie musicale, ça donnera quelques suites au cinéma, la composition d'un score peut-être ?
Ouais, je suis en train de travailler sur la composition d'un score pour un documentaire et j'ai fait un film. J'adore ça, bien sûr. J'aurais aimé monter sur scène et faire de la comédie musicale plus que d'écrire des scores pour des films. Mais c'est trop tard. sauf si quelqu'un cherche le rôle d'une maman.
Tu danses ?
Bien sûr, oui. Je danse. Oui. Je fais. Oui.
Donc quand on danse, quand on chante, je pense qu'on peut faire une comédie musicale.
Ça serait dingue. J'appelle. J'appelle tous les producteurs de comédies musicales de la région Bretagne et plus. Je suis très intéressée. Non, j'adore ça, bien sûr. Je rêve d'écrire, bien sûr, de la musique pour une comédie musicale.
On va revenir un petit peu aux États-Unis et à l'influence sans doute que la culture de ce pays a sur toi, puisque tu y as passé du temps, tu y retournes assez régulièrement. Alors c'est sûr, ça change un petit peu entre les Cévennes, Bruxelles, être à New York ou à Chicago. Bon, c'est pas la même chose. Est-ce que ça laisse vraiment des marques comme ça dans sa façon de décrire, de composer, le fait de marcher dans les mêmes rues que ses personnages et ses musiciens préférés, ses personnages de cinéma et ses musiciens préférés.
Ouais, et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit « Je ne sais pas comment trouver ta place dans la scène musicale française. » Et au début, ça m'a un peu vexée. Après, je me suis dit « Mais c'est normal, en fait, c'est parce que je ne m'en inspire pas du tout. » Et j'ai effectivement une immense culture américaine qui vient de mes parents. Hein. Ils nous ont élevés à moitié en anglais, à moitié en français. Ma maman a passé énormément de temps, elle a habité à Londres pendant des années, énormément de temps aux États-Unis. Et donc ma musique et ma façon de transposer ce que je ressens est profondément américaine, en fait. Et donc c'est vrai que c'est chouette, mais aussi ça peut me porter préjudice du coup, parce qu'effectivement je me reconnais pas dans énormément de groupes ou de musiciens ou d'artistes français actuels, quoi.
Et même du passé.
Et même du passé, c'est clair. Je n'écris pas en français, j'ai très peu de références, c'est aussi un handicap. Après, j'ai grandi en Belgique, donc Bruxelles, c'est une ville déjà qui est partagée en deux, puisqu'il y a un côté flamand, un côté français, donc tout est très anglophone. Et donc, j'ai pas cette culture française, de la musique française, et c'est vrai que parfois, ça me manque. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, on peut pas changer. Je pense qu'après, le talent, l'énergie et les efforts que les Américains mettent dans leur musique, en tout cas ceux que moi j'ai eu le plaisir de rencontrer, est vraiment inégalable, en fait, quoi, aussi. À un moment, dans le jazz... C'est difficile de trouver des compagnons de musique en France, quoi, parce que c'est une autre façon de penser, quoi.
On sent une volonté d'exil malgré soi dans ce que tu dis à l'instant, c'est-à-dire que ça t'appelle forcément d'aller vivre là-bas, de jouer avec des musiciens là-bas.
Oui, de toute façon, Je suis une volonté d'exil, de se cacher aussi. Voilà, j'habitais dans les bois, j'habitais aux États-Unis. C'est vraiment tout pour pas être à la cantine avec les autres, quoi. C'est clair. bien sûr, avec ce truc. Bon, c'est très romantique. C'est très romantique aussi, quoi. C'est, je n'appartiens à aucun groupe. Je suis ni vraiment américaine, ni vraiment française, parce que je peux aimer, comprendre et faire de la musique américaine autant que je veux. Je ne serai pas américaine. J'ai des amis américains, j'ai signé sur un label américain. Il s'avère que je ne peux pas aller y tourner très facilement, que je n'ai pas de fanbase là-bas particulièrement.
Il y a eu un événement qui est venu un peu contrecarrer ce début de carrière américaine. C'était vraiment ce Covid-là en 2020.
Ouais.
Ça t'a bloqué où d'ailleurs ? Tu es resté là-bas ici ?
Non, je suis restée ici. Bon, vraiment, il y a vraiment des gens qui ont été plus impactés par le Covid que moi. Ça m'a empêché de sortir mon album. C'est vraiment très, très mineur comme désagrément. Mais effectivement, j'ai signé sur un label new-yorkais. J'ai mis toutes mes tripes et je suis allée rencontrer des musiciens. Je les ai fait jouer. J'ai fait un album de je ne sais pas combien de titres et combien on est dessus. Et il y a eu le Covid. Et donc, il est sorti. Et j'ai absolument pas pu aller le défendre ni le présenter. Et donc, ouais, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça.
Ça recommence avec ce nouvel album, James and June, sorti en septembre dernier. Donc, ces premiers lieux que toi, tu as voulu visiter absolument, il y en a dans ton souvenir, comme ça, ou que tu avais vu dans les films avant d'arriver aux États-Unis pour la première fois, et puis tu es allé au studio Capitol à Los Angeles, à New York.
Je suis jamais allée sur la côte ouest. Je suis allée aux États-Unis pour rencontrer des gens, des musiciens. Je voulais être en studio. Je voulais enregistrer, faire de la musique, rencontrer des musiciens. Je n'étais pas très intéressée par tout ce qui est touriste. D'ailleurs, j'ai très peu visité Chicago. Par exemple, je sais qu'il y a la Sears Tower, qui est incroyable, avec une vitre qui se penche comme ça et on est plongé dans le vide. Bon, j'ai absolument rien fait. Je suis restée enfermée dans le studio de mon ami Brendan et on a écrit ce deuxième album qui est sorti en 2021, c'est ça, 2020 pendant le Covid. Et donc, non, j'ai jamais été intéressée par autre chose que de faire de la musique aux États-Unis.
Et aller voir dans des clubs de jazz, un petit peu comme Ryan Gosling dans La La Land, aller voir des concerts comme ça.
Ouais, ouais, c'est clair. Bon, j'ai fait tous les styles et genres musicaux en concert, hein, c'est clair. Le jazz, j'ai vu des trucs de country super, du blues, beaucoup à Chicago, hein, c'est la capitale du blues. Des karaokés aussi, hyper drôle, bien sûr. Tout le monde chante hyper bien, c'est trop drôle. On a cette culture du karaoké où il faut être sous, et il faut mal chanter, il faut chanter des vieilles chansons ringardes. Et eux là-bas, ça rigole pas du tout, quoi. C'est vraiment un art. Donc c'était très drôle. J'ai adoré. J'ai choisi une chanson dans laquelle il y avait à peu près 50 fois le N-word. Et donc j'ai dû jouer à ne pas le dire. J'ai pas fait exprès. Mais...
À propos de chanteuse américaine, il y en a une qu'on n'a pas évoquée dans la présentation et qu'on ne va pas évoquer vraiment, donc j'avais quand même envie de t'en parler. Cette chanteuse, c'est Beyoncé qui reprend un morceau de Dolly Parton tout récemment,
drôle, ouais.
Un de tes morceaux préférés d'ailleurs, Jolene.
Ouais.
Comment tu l'as entendu cette version?
Je ne sais pas si c'est un de mes morceaux préférés, Jolene. Bah rien, c'est très... ma vraie opinion, c'est que je suis hyper fan de Beyoncé, bien sûr, j'ai grandi avec elle, je l'adore comme toutes les filles de mon âge. J'étais un peu... déçue que ce soit si infusé de musique blanche, quoi. Là où elle aurait pu aller chercher des artistes de country américains, noirs, les mettre en valeur, des gens pas connus. Bon, elle a repris Paul McCartney, Dolly Parton, des chansons qu'on connaît par cœur, sans les réarranger. Alors vraiment, j'étais impressionnée. Blackbird, c'est vraiment la version karaoké de Blackbird, quoi. Je trouve ça très pauvre, hein, pas très intéressant, quoi. C'est vraiment un cash grab. Comme si Paul McCartney avait besoin de plus d'argent, quoi. C'est dommage, quoi. C'est un peu dommage. J'étais un peu déçue. Je m'attendais à un limonade country et on l'a pas eu.
Petite diversion.
Ouais.
On n'était pas censé en parler de Beyoncé, mais bon, j'avais envie de savoir ce que tu en pensais.
Ouais.
On va écouter maintenant une chanteuse qui a eu une importance assez grande, c'est toi. Elle a fait un album qui s'appelle Blue, peut-être indépassable, je sais pas, peut-être tu l'aimes aussi dans la carrière qu'elle a eu après, ça.
Ouais, non, je l'adore. Indépassable, Blue, hein, je pense, non.
C'est Joni Mitchell, en tout cas. Qu'est-ce qui te plaît chez elle?
Qu'est-ce qui plaît pas? Quelle femme extraordinaire, très sûre d'elle et très, très intelligente, quoi. Très mature, très tôt et très intelligente dans sa façon d'écrire, de chanter. Blue, c'est vraiment un des albums... je pense que c'est un des rares albums qui m'a vraiment fait pleurer. Elle a une chanson qui s'appelle Just a Little Green, qui parle de sa fille qu'elle a dû abandonner quand elle était ado. Elle est tombée enceinte et elle a dû donner sa fille à l'adoption. Elles se sont retrouvées des années après, elles sont devenues super copines. Il y a un documentaire sur YouTube hyper intéressant sur le sujet. Cette chanson, comme j'ai eu une petite fille jeune que j'ai gardée, elle m'a bouleversée et c'est vraiment mon artiste, je pense, préféré. Elle est féministe avant l'heure, intelligente, elle croit en tout ce qu'elle fait. Elle est géniale.
Rose and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take. Still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange, and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all.
life's illusions that I require. I really don't know life. I really don't know life at all.
Well, I've been coughing fast. Well, I've been caught in fire. I've been caught in fire. Oh. Well, I've been caught in fire. I've been caught in fire. I've been caught in fire. What comes prior to? I've been caught in fire. I stayed down the other night. I've been caught in fire. I stayed down.
When I know it was the truth.
I've been caught in fire. I stayed down the other night.
On change d'ambiance, mais on reste toujours aux États-Unis avec Penelope Antena, notre invitée aujourd'hui dans Champ Libre A, huitième du nom. C'est parce que tu étais présente à Rennes le 5 avril dernier qu'on a pu se rencontrer. Et oui, pour tous les auditeurs auditrices, c'est un enregistrement. Vous avez raté le concert, j'espère que c'est pas le cas, hein, que vous y étiez.
Je suis sûre que vous étiez tous là. Merci.
Au concert des vendredis des Champs Libres. Partenariat avec le festival Doing It. On écoutait donc Bon Iver à l'instant, un des rares musiciens contemporains qu'on écoute aujourd'hui, même si tu avais aussi choisi James Blake. Ces deux-là, James Blake et Bon Iver, pour toi, ils sont associés pour toi
Ils sont dans ma tête. non, en vrai, ils ont collaboré. Hein. Ils ont collaboré plusieurs fois. Ils sont associés, effectivement. C'est des artistes différents. C'est des artistes originaux. D'ailleurs, je pense à James Blake, il a produit une grande partie de Limonade, l'album de Beyoncé qui est le plus original. Mm-hmm. Ouais, c'est Bon Iver, c'est bien sûr, c'est mon grand amour. Jamais rencontré. J'ai travaillé avec tous les musiciens de Bon Iver. J'ai jamais rencontré Justin, mais je l'adore, bien sûr. Il est transcendant dans le genre, dans la période. Il est ni des années 80, ni des années 2010, ni des années 2000. Il est... James Blake, c'est pareil, quoi. Il transcende la soul, la dubstep, la musique électronique. C'est des casseurs de genre, quoi, comme on aime. Thom Yorke, pareil, c'est la même. Tout ça, c'est la même veine. C'est des garçons très sensibles, mais aussi avec une musique assez badass. Pas non plus des pleurnichards. non, il faut pleurer les garçons, pardon, je voulais pas dire ça. On casse les genres. C'est les deux artistes qui ont le plus transformé ma vision de la production musicale, en tout cas.
Si toi, tu as chanté pour d'autres producteurs, si tu as produit tes propres enregistrements, est-ce que bientôt, ou tu l'as déjà fait ?
Je l'ai déjà fait,
tu
bien sûr.
Tu produis souvent, alors donc
oui,
pour
oui,
d'autres ?
Oui, bien sûr, j'adore, évidemment. Oui, c'est un grand plaisir de produire de la musique. J'ai travaillé avec plein d'artistes. Emel Matloui, elle vient de sortir un album. C'est une artiste de Partisan Records. Elle était la voix de comment ça s'appelle, le printemps arabe, la révolution. Elle a sorti un album avec des morceaux que j'ai produits. J'ai travaillé avec la fine équipe. J'ai travaillé avec plein de gens. J'adore produire pour les autres, bien sûr.
On est ensemble pour plonger dans les goûts musicaux de Penelope Antena. Et on n'est pas surpris. Moi, je ne suis pas surpris, finalement, après cette discussion. Comme ça qu'on arrive à ce dandy toujours un peu triste, toujours un peu perdu. Malheureusement, lui aussi a succombé à la drogue à la fin de sa vie. Il y avait quelques moments moins glorieux, sans doute, pour Chade Baker. Mais qu'est-ce que... Là, je ne vais pas demander qu'est-ce qui te plaît chez lui. C'est tout, évidemment, j'imagine, son élégance, son côté simple. Comment tu l'as découvert, Chade Baker ?
Il a toujours été dans ma famille, pareil. C'est vraiment quelqu'un qu'on écoutait, qu'on connaissait. Mais c'est ma petite sœur, en vrai, qui m'a donné un album à lui. Et qui m'a dit, c'est celui où il chante Chade Baker Sings. Et qui m'a dit il faut absolument que t'écoutes ça, c'est incroyable. Et je voulais juste dire qu'il est pas mort drogué. Enfin, il était peut-être drogué, mais il est pas mort d'une overdose. Il est tombé par la fenêtre. Il est mort d'un tragique accident. Il était très drogué, bien sûr, mais c'est un artiste magnifique qui chante sans chanter, sans en faire trop. Quoi, c'est quelqu'un qui chante en toute humilité. Et ça se ressent, et du coup on est hyper touché par ce qu'il chante, même s'il chante que des grands classiques de jazz. Au final, il a jamais vraiment écrit, je pense, peut-être à la trompette en fait, mais pas au chant, quoi. Et je me rappellerai toujours, je suis allée aux États-Unis la première fois au Texas, et j'ai dit j'achèterai pas de vinyle parce que ça coûte trop cher, ça va peser lourd dans ma valise, et le seul que j'achèterai si je le trouve, c'est Chet Baker Sings. Mais bon, il est introuvable. Et on est allé de Dallas à Austin en voiture parce que mon ami avait un concert à faire à Austin. Et on s'est arrêté au bord de la route pour aller aux toilettes dans un petit boui-boui, un petit café qui faisait aussi brocante. Et là, parmi quelques vinyles, vraiment, il y en avait 4 ou 5, je trouve une version originale de Chet Baker Sings. Et à $14, quoi. Un truc qui en vaut, je sais pas, 400, 500. Donc je le prends direct et je vais à la caisse et la dame me dit « Ah, vous aimez bien Chet Baker ?» C'est lui qui m'a donné ce vinyle. En fait, j'habitais à New York, au-dessus du club où il jouait tout le temps. En fait, c'était une vieille dame, son mari était décédé, elle vidait sa maison, en fait. Elle revendait toutes les affaires de sa maison pour déménager chez sa fille. Et dont ce vinyle incroyable que Chet lui avait donné, dont elle avait aucune idée de la valeur. Donc je chéris Chet Baker dans mon cœur pour toujours.
L'automne à New York, c'est la saison que tu sembles connaître le mieux, Pénélope.
Le hasard a voulu que ce soit la seule saison que j'ai jamais connue à New York. À chaque fois que j'y vais en automne. J'ai fait Halloween et Thanksgiving là-bas. Pas plus tard que Thanksgiving, qui est le 25, le dernier jeudi de novembre.
C'était donc Autumn in New York par Chet Baker. On va arriver vers la fin de cette discussion, forcément trop courte, avec Penelope Antena. Mais bon, évidemment, vous pourrez poursuivre l'échange avec Penelope Antena en écoutant son album James and June. Alors, je sais pas, l'échange, vous entendrez. Bon, vous penserez très fort à Penelope et peut-être qu'elle entendra ce que vous pensez. L'album était sorti le 22 septembre dernier chez nos amis de Parapente. Tu es une musicienne qui se balade entre... le jazz, la soul un petit peu aussi, et puis les musiques un peu plus contemporaines également. Tu fais une musique d'aujourd'hui. C'est quoi tes derniers émois musicaux que tu n'as pas trouvé au champ libre pour le coup, parce que peut-être c'était trop frais, trop récent, trop spécifique et que c'était pas encore arrivé sur les rayonnages de la bibliothèque.
Bonnie Prince Billy, C'est un artiste que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il a une chanson qui s'appelle In Good Faith, qui est incroyable. Voilà, c'est folk americana, magnifique.
Et ben voilà, vous avez cette sélection supplémentaire voilà. par Penelope Antena. Et on va arriver au piano quand même à la toute fin, parce que du piano il y en a beaucoup sur l'album oui. James and June. Il y a la voix de Penelope, il y a le piano et puis des arrangements très précis, très étonnants. J'aime beaucoup.
Merci.
Le pianiste Thelonious Monk, quand on est un peu connaisseur du jazz, on se dit oh là là, ça m'a l'air beaucoup trop compliqué le piano de Thelonious Monk. Tu peux démentir ou...
Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prendre à la bibliothèque des champs livres un livre qui s'appelle Monk, qui est écrit par Laurent, je crois que c'est son prénom, DeWitt, qui vous donnera envie d'écouter sa musique parce qu'il rend Monk incroyablement touchant et charmant et bizarre et mignon. Voilà. L'homme aux mille chapeaux, il portait tout le temps un chapeau différent, Monk. C'est un personnage très étrange et sa musique l'est tout autant, mais... aussi très touchante, voilà. Monk par Laurent DeWitt, incroyable livre.
Et là, on va écouter Thelonious ouais. par Thelonious
Ugly Beauty,
Monk.
Ouais, c'est ça.
On a passé 45 minutes avec Penelope Antena. Vous retrouverez la sélection in extenso, parce qu'il y a quelques disques, quelques livres qui sont passés à côté. Peut-être on les cite quand même pour terminer, Penelope, si tu veux bien.
Oui, j'ai mis le livre de Patti Smith, Just Kid, qui m'a vraiment... Just Kids, qui m'a trop donné envie de partir à New York dans les années 70.
De mais c'est pas possible
drogue.
De partir dans les années 70.
Non, ni de prendre de la drogue.
Non plus.
Et Pulp Fiction, la BO, qui m'a trop donné envie de partir aux États-Unis dans les années 70 et de prendre de la drogue. Voilà. Deux artistes incroyables, Patti Smith et... comment il s'appelle Tarantino, bien sûr.
On termine donc avec Thelonious Monk. On se retrouve pour Champ Libre A eh bien, dans un mois, vous avez compris. Et puis sinon, pour l'émission Crème de la Crème traditionnelle, bah oui, ce sera dès lundi prochain. Retrouvez bien sûr écoute et puis playlist sur canalb.fr. Je remercie encore une fois, comme à chaque fois d'ailleurs, Clarisse Mérour et Antoine Blanchet de la Bibliothèque des Champs Libres. Merci Pénélope aussi, à toi bien sûr.
Merci, merci à vous.
Terminé Crème de la Crème aujourd'hui, un morceau de choix proposé par Cédric. C'est Ronan Chaplin qui l'a rencontré. Il nous dit tout le bien qu'il pense d'un morceau des Vivian Girls. Et ce sera la fin de Crème de la Crème aujourd'hui. On se retrouvera non pas la semaine prochaine, mais le 13 mai. Et oui, vacances oblige. Je vous en souhaite de très bonnes si vous avez la chance d'en prendre quelques-unes. Et puis on se retrouve donc le lundi 13 mai à 18h pour continuer à découvrir des nouveautés musicales, à rencontrer des artistes et puis à vous proposer aussi des infos-concerts. Ciao !
Morceau de
bravoure.
Cacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Morceau. Le morceau.
Porter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
I Heard You Say des Vivian Girls sur l'album Share the Joy sorti en 2011. C'est un groupe qui a sorti trois albums, deux premiers albums qui étaient un peu plus pop-punk, le troisième est peut-être un peu plus rock indépendant, inspiré des années 60 et Dream Pop. J'aime beaucoup la mélodie qui tranche un peu avec les paroles qui semblent très joyeuses. Des paroles sont un petit peu plus sombres, un petit peu plus mélancoliques. L'impression de road trip avec cette belle mélodie. Les harmonies vocales sont très très réconfortantes. On est vraiment apaisé quand on écoute cette chanson. J'aime beaucoup ce clin d'œil justement au groupe des années 60, des groupes vocaux de femmes des années 60, un peu soul. C'est une chanson qui a un super univers qui, à moi, m'invite un peu au road trip, comme je le disais. Mais c'est aussi lié à la pochette. La pochette représente deux montagnes avec des arbres et un chemin en plein milieu. Et c'est vraiment à l'image de cette chanson et de l'album en particulier. On a vraiment envie de rentrer dedans et de pas en sortir.